Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 13 octobre 2022. Alors soyons sérieux, deux minutes. On nous prend la tête depuis trois jours parce que les minutes du dernier FOMC meeting vont peut-être nous annoncer la surprise, le coup de pouce dont on a besoin pour croire encore que la Fed est notre ami et qu'ils seront toujours là pour nous. Et puis hier soir, on se rend compte qu'en fait, de coup de pouce, c'est plutôt une grande claque dans la gueule avec le fait que la Fed réaffirme qu'elle reste plus au quiche que jamais, qu'elle mange une colombe à chaque petit déjeuner. Et ce matin, tout le monde est surpris par cette déception. On a l'impression que tout le monde a mis la tête dans le sable et que là, on joue la surprise totale. Je dois vous avouer que je suis totalement scotché en lisant la presse de la nuit du matin et de tous les articles qui ont été écrits après les publications des minutes du FOMC meeting du mois de septembre. Pour bien expliquer les choses, voici un extrait que j'ai trouvé dans un journal financier qui résume ce qui s'est passé hier. Deux points, ouvrez les guillemets. Les minutes de la Fed ont montré que les responsables de la Fed étaient bien davantage préoccupés par les risques liés à l'inflation que par les répercussions du durcissement de la politique monétaire sur l'emploi. Tout le monde comprend désormais que la Fed va continuer à monter les taux. La question pour le marché est de savoir quand se produira la transition entre des hausses de 75 basis points à des hausses plus modérées. Fermez les guillemets. Non, mais sérieusement. Sérieusement, il y a des gens, ils sont journalistes, ils sont payés pour écrire des trucs pareils. Et le pire, c'est que si c'est l'expression de la réalité, j'en arrive à croire que les intervenants sont devenus complètement stupides et vivent dans un Disneyland pour investisseurs. Un Disneyland rempli de monstres gentils où on mange du gâteau au chocolat à tous les repas et où on ne grossit jamais. Pour bien m'énerver correctement ce matin, je voudrais donc rapidement revenir sur le passé, histoire de voir si c'est moi qui suis complètement idiot ou si c'est ce que l'on nous raconte dans les médias ce matin et que c'est d'une stupidité sans bornes. Tout d'abord, le 21 septembre, le dernier FOMC meeting a pris fin et Jérôme Powell, patron de la Fed et pourfendeur de l'inflation devant l'éternel, s'est fendu d'un discours pour nous expliquer que il y aurait une nouvelle hausse de 0,75% en novembre. Il y aurait ensuite une autre hausse de 0,5% en décembre, que d'ici fin 2022, il y aurait encore une hausse totale de 125 basis points. Ça, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à additionner 0,5 et 0,75. Et qu'ensuite, il monterait encore les taux en 2023 pour atteindre les 4,5% sur les Fed Funds. Puis et les taux resteraient là pendant un moment. Et pour terminer avec une bonne nouvelle, Powell a dit que les taux ne baisseraient pas avant 2024. Ça, c'est un fait. Pas de la spéculation ou des théories économiques fumeuses basées sur du tarot ou les statistiques des 843 dernières années qui nous démontrent par A plus B que les jours de pleine lune, une fois sur deux, les marchés montent. En plus du discours de Powell qui date du 21 septembre, on notera encore que depuis le 22 septembre au matin, nous avons eu droit à pratiquement 2 à 3 membres de la Fed qui ont parlé chaque jour, week-end y compris, pour répéter ce même discours. Discours qui, depuis 3 semaines, ressemble plus à un mantra qu'à un communiqué de presse d'ailleurs. Et puis, il y a eu les chiffres économiques qui nous ont démontré que, globalement, il y avait bien eu quelques chiffres économiques qui montraient un léger ralentissement, mais que ce dernier était fortement remis en question par les chiffres de l'emploi qui étaient relativement solides, pour ne pas dire forts. Sans compter que depuis le 22 septembre, le pétrole a repris 5$, ce qui ne favorise pas non plus la lutte contre l'inflation. Alors, je veux bien concevoir que les chiffres de l'ISM ou ceux des JOLTS auraient pu éventuellement peut-être tempérer les velléités haussières de la Fed sur les taux. Je dis bien peut-être. Mais ces chiffres sont sortis après le meeting de la Fed du 20 et 21 septembre. Et si ces chiffres sont sortis après le FOMC meeting de septembre, comment est-ce que quelqu'un de décemment constitué, avec un QI supérieur à 14, aurait pu imaginer que les minutes du FOMC meeting de septembre aient déjà intégré ces données ? Non, je dis ça parce que lorsque l'on prend le temps de lire les réactions à la publication d'hier, on a l'impression que les intervenants sont déçus de voir que la Fed n'a pas changé son opinion. Bien sûr. Malgré certains chiffres qui sont sortis depuis le 21 septembre. Mais à quel moment on n'a pas compris que les minutes sont le reflet de ce qui s'est dit et fait entre le 20 et le 21 septembre et que du coup, ils ne connaissaient pas les chiffres de l'emploi ou de l'ISM qui sont sortis 2 semaines plus tard. Alors bon, Je sais bien qu'on a tous vu les films de Retour vers le futur, mais je tiens à répéter encore une fois, au cas où ce n'est pas clair pour tout le monde, la DeLorean de Marty McFly n'existe pas, et il ne peut pas vraiment voyager dans le temps, tout comme la Fed ne le peut pas non plus. Retour vers le futur est une fiction, et pas un documentaire diffusé sur Discovery Channel. Donc, malgré le fait que tout ce qui est écrit dans les minutes publiées hier était connu auparavant et que ça n'est de loin pas la première fois que nous l'entendons, le marché s'est montré déçu parce que la Fed n'a pas exprimé son intention de baisser les taux, de pivoter, de se transformer en colombe, ni même d'envisager de ne plus jamais monter les taux. Exactement comme il l'avait dit le 21 septembre. Du coup, maintenant qu'on a découvert l'évidence, le fait que l'eau s'amouille et que tout corps plongé dans l'eau, qui n'est pas remonté au bout de 5 minutes, est considéré comme foutu, on pouvait vendre encore une fois le marché en attendant encore d'en savoir plus sur l'inflation d'ici 14h30 cet après-midi. Hier, le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé en baisse pour la 6e séance de suite. Le S&P 500 a cassé son support insupportable des 3585 pour terminer 8 points en dessous. En Europe, on a aussi terminé en baisse pour la 6e fois consécutive, mais pour l'instant, on tient les niveaux qu'il vaudrait mieux tenir d'ailleurs. En résumé, il serait bon de se réveiller et d'avoir un peu plus de logique plutôt que d'espérer des miracles qui n'arrivent qu'au cinéma et de se raccrocher aux chiffres du CPI qui sont encore les derniers à pouvoir nous sauver les fesses ou nous enfoncer encore un peu plus dans la déprime. Ce matin, l'Asie montre également sa déception en baissant légèrement et en exprimant son inquiétude par rapport au CPI de tout à l'heure. Le Nikkei recule de 0,5%, le Hang Seng baisse de 0,9% et on va dire que la Chine consolide en ne faisant rien. Le pétrole recule encore sur les niveaux des 87$. Il faut dire que les craintes de récession pèsent sur le brut et hier, le spécialiste du secteur chez RBC a déclaré qu'en cas de récession, le baril pourrait descendre facilement à 60$. Il est assez intéressant de noter qu'il y a 3 jours, l'analyste qui s'occupe du même secteur, mais chez Goldman Sachs, a estimé que le baril pourrait monter à 110$. Récession ou pas, les deux mecs ont fait les mêmes études, mais visiblement, ils n'ont pas la même version d'Excel à disposition, ou alors ils ne font pas les mêmes incantations auprès des dieux de la finance. Autrement, dans les trucs qui ne font rien, on citera alors qui ne bouge pas, le Bitcoin qui privilégie l'immobilisme et LVMH qui a publié de bons chiffres au-dessus des attentes, des chiffres qui démontrent encore une fois, si c'était nécessaire, que la crise ne touche pas trop le luxe et que même sous Covid, les Chinois trouvent encore le moyen d'aller faire la queue chez Vuitton. Pourtant, le titre ne montrait que de 1,8% hier. On a l'impression que la saison des trimestriels ne sera pas facile ce trimestre. Hier soir, Pepsi a fait nettement mieux que les attentes et prenait 4% pour fêter ça. Et la réaction de certains analystes était mitigée. Ces derniers prévenant que ça serait probablement la seule société qui battrait les attentes ce trimestre. On sent tout de suite qu'on a super envie et qu'on y croit comme jamais et que la motivation des investisseurs est au top. Dans les bonnes nouvelles, oui, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, Moderna a annoncé qu'ils allaient s'associer à Merck pour lancer un vaccin contre le cancer basé sur l'ARN. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais disons que ces vaccins seront censés être plus personnalisés et devraient être une révolution. Pour le moment, ils sont en phase d'évaluation, mais dans le doute, le titre a pris 17% au paroxysme de la journée avant de ne terminer en hausse que de 8%. Pour le reste, je suis surpris parce que Elon Musk n'a pas proposé de régler une crise quelque part dans le monde, ni proposé d'aller en Arabie Saoudite pour détendre le conflit avec Biden. Par contre, on notera que tout le monde a une opinion sur ce que fait, ce qu'a fait ou ce que pourrait faire la Fed. Il y a aussi l'Allemagne qui accuse la Russie de mettre son économie délibérément en récession. Bon, en même temps, ils s'attendaient à quoi, les Européens et les Allemands? Qu'en sanctionnant Poutine, il allait gentiment donner un coup de main et se comporter en gentil toutou à sa mère? Je crois que là aussi, il y a certains politiciens qui vivent sur une autre planète. Du coup, peut-être à cause des complaintes et des jérémiades allemandes, Poutine a laissé entendre qu'il pourrait rouvrir les vannes de Nord Stream. Enfin, du Nord Stream qui fuit pas. Côté Royaume d'Angleterre, la banque centrale est dans le pâté et ne sait plus quoi faire et ni comment le faire au niveau de son intervention. Le GBP va dans tous les sens et le rendement du 15 ans est brièvement passé au-dessus des 5%. D'ailleurs, à propos de rendement obligataire, on entend parler de plus en plus d'un crash obligataire à venir. Manquerait plus que ça. Encore un crash annoncé. Et puis, pour terminer avec une bonne nouvelle, un analyste de chez Moody's pense que d'ici 6 mois, l'inflation sera coupée en deux et que l'on va pouvoir se détendre. En même temps, quand les analystes de Moody's font de la prévision alors que d'habitude, ils se contentent de réagir à des mauvaises nouvelles du style « Ah, la société est en faillite. Ah bah, on passe la dette de AAA à junk bond. » On peut craindre le pire. Quoi qu'il en soit, tout à l'heure, nous aurons le CPI américain qui est attendu à 8,1% et qui devrait changer la face du monde, définitivement. Si le chiffre est autour de ses prévisions, on devrait pouvoir se dire que toutes les conditions sont alignées pour un rebond magique, double bottom, tenue des supports, machin, tout ça. Par contre, s'il est en dessus des 8,3%, je pense que je m'achète une lamasserie au Tibet, je me rase le crâne et je me mets à la méditation transcendantale. Hier, le PPI est sorti légèrement au-dessus des attentes, mais en dessous du mois dernier. Mais pour être franc, on n'a même pas fait attention parce que nous étions trop occupés à surveiller la marmotte de la Fed qui met le chocolat de la récession dans le papier de l'inflation. Notons tout de même qu'il n'y aura pas que les chiffres du CPI aux USA, il y aura aussi ceux de l'Allemagne qui sont attendus à 10%. Merci Monsieur Poutine. Il y aura aussi le PPI ensuite et les jobless claims aux USA. Les inventaires pétroliers seront également de sortie ce soir. Mais pour être franc, dès 14h31 cet après-midi, le monde ne sera plus pareil. Pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,15%. On sent le rebond de folie qui s'annonce. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée en ce qui me concerne. Je vais me relire les minutes du FOMC meeting qui date de mars 2000, histoire de voir s'ils ont changé quelque chose ou mieux, appris quelque chose. Très belle journée à tous et à demain.